commençons vers verset. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Sion, ce n'est pas dans le royaume du Nord, ça c'est à Jérusalem. Sion, c'est une des collines de Jérusalem. Il dit malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Hamath, la grande, et descendez à Gath, des Philistins. Les villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur les lits d'ivoire, ils sont voluptueusement étendus sur leur tapis. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux qu'on a mis à l'engrais. Ils engrènent les sons du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent les calices à vin. Ils s'enduisent d'huile vierge. Ils ne souffrent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi maintenant ils seront amenés à la tête des déportés et les banquets de ces voluptueux cesseront. Alors quel était le problème avec le royaume du Sud et le royaume du Nord? Ça a été un problème d'abondance. Il parle du royaume du Sud et du Nord, mais il se concentre plutôt sur le royaume du Nord. Et ces prophéties viennent à une époque d'affluence. Là, nous voyons quelques exemples. On parle du peuple qui se repose du lit d'ivoire. Ce sont des choses assez précieuses. Des tapis. On parle de leur bétail. On parle aussi de la musique, un peu musique du monde. Mais ils jouent très très bien, ils mangent bien l'huile vierge. Donc là, on peut parler des cosmétiques, on peut aussi parler des médicaments, on peut aussi parler de la nourriture, aussi bien que l'électricité, c'est-à-dire ils allument leurs lampes avec cette huile. Toutes ces choses-là, en abondance et au détriment de leur relation avec Dieu. Dieu dit, mais voir les autres nations, Calné, Gath, Hamath, et c'est vrai, ils étaient bénis, ils pouvaient voir. Et regardez, c'était une bénédiction totale. Déjà, il faut dire que dans le pays lui-même, il y a des fruits qui poussent tout naturellement. Il y a les olives, il y a des figues, l'orge. Il y a vraiment ce qui est nécessaire qui pousse tout naturellement dans ce pays. Et si on commence à cultiver la terre, si on commence à faire des échanges, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel. D'autant plus qu'il y avait la main de l'Éternel qui les a bénis. Mais il paraît qu'ils ont changé leur bénédiction dans un sujet d'orgueil et de fierté. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa justice, il dit « Le Seigneur éternel a juré par lui-même. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre autorité plus haute que lui. Déjà, jurer, c'est être vraiment sûr que ça va arriver, mais quand le Seigneur jure, c'est-à-dire que vous pouvez être sûr que vous êtes sûr que vous êtes sûr. Et ça va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver? J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Je hais ces donjons. Je livrerai toute ville et ce qu'elle renferme. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler, et qu'il enlèvera de la maison des ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence, car il ne faut pas évoquer le nom de l'Éternel, parce qu'ils ont, ils ont peur. Alors, des gens aussi regardent ce verset et ils posent des questions parce qu'il y a certains qui croient que ce n'est pas très biblique de brûler donc, les corps. Ils ont beaucoup du mal parce que, disent-ils, vis-à-vis de la résurrection, c'est difficile. Bon. Première chose, si c'est vis-à-vis de la résurrection, ne croyez pas que Dieu a besoin des molécules de votre corps pour vous ressusciter. Paul, il a dit que le corps sera semé dans la terre, une chose, mais ça va sortir toute une autre. Deuxièmement, nous savons aussi, et Dieu, bien sûr, était au courant depuis toujours, que scientifiquement parlant, les molécules qui font notre corps changent beaucoup. Donc, physiquement parlant, qui vous êtes aujourd'hui ne sera qui vous serez d'ici 7 ans. Enfin, juste en parlant de la matière. Donc, Dieu n'a pas besoin de cette matière pour ressusciter votre corps. Et la Bible donne beaucoup de liberté, je crois, dans ce sens-là. Et donc, si vous êtes parmi ceux qui veulent ça plutôt qu'être enterré, préservé et tout, si ça vous aide pour vous justifier, bon, tant mieux. Mais ce que dit le passage réellement, il parle de Dieu qui frappe dans sa justice avec une rapidité et une pesanteur immense, que s'il y a dans une maison 10 hommes qui vont tous mourir, voire le jour même, il n'y aura pas la place pour enterrer tous ces gens. Il n'y aura pas ni le temps non plus. Il faut agir vite. Donc c'est pour ça que c'est évoqué de ce sens-là. Car voici que l'Éternel donne des ordres. Il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. Est-ce que les chevaux courent sur leur rocaille? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé le droit en poisson et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui est néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi voici que je ferai lever contre vous, maison d'Israël, oracle de l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au temps de la Araba. Et là, il parle de l'Assyrie qui viendra comme une inondation pour les déporter, les éloigner loin. Les images qu'il utilise, ce sont des images de la nature. Les chevaux ne courent pas sur les précipices et sur les rochers. Et donc, il dit tout simplement, les bêtes le savent, mais vous, vous êtes éloigné dans votre orgueil, aveuglé plutôt par votre orgueil, que vous ne rendez pas compte que vous voulez faire l'impossible. Quel est l'impossible? Vivre de façon mondaine et illicite, tout en gardant la bénédiction de Dieu. C'est impossible. Et c'est vrai qu'il y a aussi un côté trompeur parfois dans cette bénédiction de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie, mais c'est plutôt notre chair qui fait que on est tellement bien, on est rassuré, qu'on se croit invincible. Et beaucoup de gens, dans le ministère, souvent ils chutent parce qu'ils pensent que Dieu les a bénis, Dieu les a appelés, et donc Dieu a fait une merveilleuse trouvaille avec eux, et il ne peut pas trouver quelqu'un d'autre. C'est ce même genre d'orgueil qu'eux, ils avaient. C'est vrai, ils étaient très privilégiés, comme nous le sommes aussi dans l'Église. Mais au lieu de trouver un point de fierté dans notre élection et dans notre salut, plutôt ça doit inspirer une certaine humilité et gratitude, parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Comme il dit en Jacques, le Seigneur, il abaisse les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis, chapitre 7, Amos continue en disant, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici qu'il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel en eut du regret. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici que le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu. Et le feu avait dévoré le grand abîme. Il dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel en eut du regret. Et cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il a deux visions de la destruction. On a vu en Joël à quel point une invasion des sauterelles peut dévaster le pays. Selon certains experts, on peut attendre qu'il y ait justement une fléau de sauterelles assez souvent, pas tous les ans, mais ça peut arriver assez régulièrement. Donc c'est quelque chose qu'ils déjà ils étaient habitués à ce genre de problème. Mais là, apparemment, c'était tellement terrible dans la vision d'Amos qu'il crie, qu'il pleure, il invoque le Seigneur. Et le Seigneur, il arrête avant que ça ne se passe. Lorsqu'il dit « le Seigneur eut du regret », il ne faut pas prendre ça comme si l'Éternel ne savait pas ce qu'il faisait. Et comme si l'Éternel, je sais pas, c'était un peu schizophrène, il fait une chose et puis il fait une autre, et il fait tout à sa sauce et il est capricieux. Non, c'est pas ça. En fait, c'est juste une manière de parler pour parler de quelque chose qui est un peu au-dessus de notre compréhension. Comment un Dieu qui connaît toutes choses puisse inviter et même utiliser les gens par leur propre volonté à agir dans l'intercession. Dans les deux cas, en fait, ce que nous voyons, c'est que le projet est de faire du mal, de juger le peuple. Mais ce sont des jugements très dévastateurs. Et dans les deux cas, Amos intercède. Et si Dieu révèle ça à Amos, c'est parce qu'il veut inciter ça en Amos. Il veut que Amos prie. Parce que Dieu ne trouve pas du plaisir dans la destruction des gens. il veut inciter Amos à intercéder pour lui donner une raison à ne pas le faire, si vous voulez. C'est un petit peu comme ce que je fais souvent avec mes enfants. En tant que parent, ça fait un peu mal de devoir corriger les enfants, surtout si on a déjà organisé ou on avait déjà des idées pour les bénir. Et puis, les enfants font quelque chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas leur bénir de cette façon. Peut-être c'était une soirée de, je ne sais pas, regarder un film ensemble, mais l'enfant n'a pas fait ses devoirs et il a caché aux dernières minutes. Alors, en tant que parent, juste, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, oh bon, ça va, on va regarder le film quand même. Non, il faut que l'enfant fasse son devoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être, si on est plein de grâce, on essaie de travailler avec l'enfant pour qu'il puisse arriver à le terminer. Et Dieu aussi, il évoque cette action de la part d'Amos, parce que l'intercession est beaucoup plus puissante que nous l'imaginons, qu'il est possible d'imaginer. D'après les visions que Amos a eues, nous avons toute raison pour croire que Dieu allait faire ces choses. Et si Amos n'a pas prié, toutes les récoltes de ces saisons allaient être détruites par les sauterelles et puis par le feu. Et s'il n'y avait plus de moissons, il n'y a plus de nourriture. S'il n'y a plus de nourriture, les gens vont mourir de faim. Et pourquoi? À cause d'un manque de prière. Même si le peuple était dans la désobéissance, l'homme de Dieu était appelé à prier. Et je souligne ceci parce que nous aussi, souvent Dieu il nous met à cœur à prier pour quelqu'un. Et ne pensez pas que c'est une petite chose. On ne sait pas ce qui peut arriver ou ce qui ne peut pas arriver si on prie en obéissance. Et peut-être même en priant, voire jeûnant, les choses ne se passent pas comme on le pensait. Mais au moins, nous avons la certitude qu'en remettant les choses entre les mains du Seigneur, les choses se sont passées comme il voulait. Et au mieux. Et donc, nous voyons juste dans cette petite scénario, cette petite scène, que les prières sont tellement importantes. Et c'est quelque chose que Dieu nous donne à nous tous. Si vous ressentez cette inclination, ce sentiment, hein, je devrais prier pour quelqu'un, écoutez cette voix et priez pour cette personne. Et qui sait, peut-être Dieu va vous révéler d'autres personnes aussi qui ont besoin de prière. Il m'a envoyé cette vision. Voici que le Seigneur se tenait sur un mur égalisé au niveau. Il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Très bien, des choses qu'il comprend en tant qu'homme qui travaille dans la nature, qui travaille avec ses mains, un niveau. Donc, c'est pour assurer que les murs sont droits, que les bâtiments sont droits et qu'ils ne s'écroulent pas sur eux-mêmes. Quelque chose qu'il comprend. Un niveau, ok, très bien. Et le Seigneur dit, « Voici que je mets le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui passerai plus rien. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. je m'élèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Cette fois-ci, il n'y a pas d'intercession. Pourquoi? Deux fois avant, il y avait des intercessions et Dieu n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas d'intercession. Est-ce qu'il n'est pas possible que les deux autres fois, Dieu l'incitait à prier et la troisième fois, il n'avait pas l'appel? Alors, il n'a pas fait. Dieu ne peut pas être dirigé comme on le veut. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. On ne peut pas faire les choses systématiquement comme on le pense, comme on le souhaite. Et parfois, Dieu il nous incite à prier, libérer les captifs. Il faut être honnête, il y a parfois des moments où il ne le fait pas. J'ai entendu une histoire d'un pasteur aux États-Unis qui n'a pas le don de guérison. Et puis un jour, il était en visite à une autre église et quelqu'un est venu dans un fauteuil roulant demandant prière. La personne, dans son esprit, le pasteur, il pensait, donc il faut que je prie. Il avait vraiment le certitude qu'il demande sa guérison complète. Alors, il impose les mains, il prie pour cette personne et il demande qu'il se lève dans le nom de Jésus-Christ, qu'il a fait. Il disait tout tremblant parce qu'il savait qu'il devait le faire, mais il avait une crise de peur aussi, mais il l'a fait, il était obéissant. Et à sa grande surprise, la personne a vraiment marché. Alors, il est encore plus surpris après. Et puis la famille aussi, parce que la famille disait, on l'a amené parce qu'il était enrhumé. Alors le lendemain, il était dans un autre service, et puis il y avait une situation pareille, et puis il n'a pas fait. Et son fils, qui travaillait aussi avec lui, venait le voir après et disait, mais qu'est-ce qui se passe alors? Hier, tu as fait ça, c'était merveilleux, pourquoi pas aujourd'hui? Il a dit, hier, j'avais la foi, hier, j'avais la conviction que Dieu m'a appelé, et aujourd'hui, non. Et il avait raison. Si Dieu ne vous a pas appelé, comment est-ce que vous pouvez le faire de vous-même? Ça, c'est la prétention, ce n'est pas la foi. Parce que Dieu, il a mis le niveau. Il mesurait, il voyait que les choses n'étaient pas droites. La vie n'était pas droite. Et il y avait des gros problèmes. Et à cause de ces gros problèmes, comme avec un mur qui n'est pas droit, qu'est-ce qu'il faut pour ce mur? Il faut descendre le mur avant que ça ne tombe sur un innocent et que quelqu'un se blesse. De la même manière, ici, puisque ce n'était pas droit, il fallait que ça descende pour être rebâti plus tard. Alors, Amatsia, sacrificateur de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi et au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Alors, déjà, nous voyons que Amatsia, il tord un petit peu la vérité. Est-ce que Amos disait des choses de rébellion ou d'insurrection? Il mentionne pas beaucoup même le nom du roi. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Amatsia dit à Amos, visionnaire, va-t'en, enfuis dans le pays de Juda et mangis ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel car c'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Alors pourquoi Judas? Parce que Judas, c'est le pays où il y a Jérusalem, le temple. Donc si tu veux parler du temple, si tu veux parler de Dieu, va-t'en là où les gens peuvent parler du temple et peuvent parler de l'Éternel. Ici, c'est la maison du roi. Ici, c'est le monde. Ici, c'est pas ça. Deuxième chose aussi, Amos, il vient en fait de Tekoa. Tekoa qui est une ville du sud, pas très loin de Bethléem. Alors, c'est aussi pour dire, mais tu n'as pas ta place ici. Et qui es-tu, étranger, pour venir nous parler de ces choses-là? C'est ce qu'il dit. Ici, c'est la maison du roi. Ici, c'est le luxe. Ici, c'est la prospérité. On ne veut pas entendre ce bruit d'apocalypse, ce bruit de fin des temps, de la moralité, de ta vision des choses. Ce qui me touche beaucoup, c'est ce genre de discours que nous entendons beaucoup, ici même aujourd'hui. Ce genre de choses. Ah oui, bah oui, bah, bon, vous les protestants ou les évangéliques issus de la religion de Bush, allez-vous-en tous en Amérique. C'est un petit peu la même chose. Comme si, et nous savons tous que le protestantisme a commencé aux États-Unis. Bon. Alors, si ils ont dit ces choses à l'époque d'Amos, on ne doit pas être surpris qu'ils nous les disent aujourd'hui. Et c'est peut-être même une confirmation que nous disons la vérité. Parce que Dieu est le même. Et aussi, les hommes et le péché et le diable n'ont pas trop changé non plus. Amos répondit à Matthias. Et j'aime beaucoup quand il y a des gens comme Amos. C'est une de ces images qu'on aimerait bien voir dans un film pour qu'on puisse le voir et puis... on revient sur la scène et puis on le revoit encore et encore. C'est vraiment le sommet là. Amos, il dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis bouvier et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va et prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis ne prophétise pas sur Israël et ne bavarde pas sur la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. Ta terre sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. Dis, mais écoute, hein, Amartya, bon, toi tu as fait toutes les belles études, tu es un professionnel, bon. Mais moi, je ne suis pas professionnel. Et en fait, je suis un simple homme et l'Éternel m'a appelé. Et puis, il répète exactement la même chose que Amartya détestait et voulait qu'il ne dise plus. Et ça nous fait rappeler de quelque chose d'absolument fascinant. Comment le Seigneur a utilisé des hommes tels que Pierre, Jean, Jacques, aucune formation religieuse pour commencer son Église. Et c'est fort parce que on n'est pas contre des formations, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un diplôme qu'il en appelle de Dieu. Et souvent, Dieu utilise les gens qui n'ont pas beaucoup de diplômes, pour faire des choses tout à fait remarquables. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que ceux qui devaient le savoir ont fermé les oreilles. Ils ne voulaient pas entendre, ou ils se sont éloignés. Parce que Dieu, il fait grâce aux hommes et il abaisse les orgueilleux. Et donc, nous pouvons prendre courage dans cette situation. Parce que, voyez, on ne doit pas être grand-chose aux yeux du Seigneur pour faire des... Enfin, excuse-moi, on ne doit pas être grand-chose aux yeux du monde pour faire des choses tout à fait remarquables dans ce monde. Tout ce qu'il faut, c'est tout simplement un appel du Seigneur. Et Dieu, il peut faire des grandes choses avec des gens qui sont simplement disponibles, qui ont la foi. Et Amos était un de ces personnes. Chapitre 8. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici une corbeille de fruits mûrs. Il dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, une corbeille de fruits mûrs. Encore, on aime beaucoup la façon que Dieu fait des choses. Vous voyez, il demande à Amos, qu'est-ce que c'est Amos? Il dit, c'est un niveau. Oui, c'est ça, une chose qu'il comprend. Et maintenant, qu'est-ce que c'est Amos? Qu'est-ce que tu vois? Une panier de fruits. Exact, c'est ça. Vous voyez, très souvent, on complique les choses. On cherche la chose hyper compliquée qui fait réfléchir. Et souvent, Dieu, il utilise quelque chose très naturel. Panier de fruits. Quelque chose qu'on comprend tout à fait. Et l'Éternel me dit, la faim a mûri pour mon peuple Israël. Alors là, c'est un peu compliqué. Et heureusement, on a des gens comme un expert en hébreu, le professeur, le docteur Feinberg, qui révèle que pour Amos, ça va être pas simplement une chose évidente, un panier de fruits, mais c'est aussi dans sa langue maternelle un jeu de mots. Panier de fruits et la faim, paraît-il, sont deux mots qui, bon, on peut faire un jeu de mots avec ces deux mots. Et donc, il y a ça, quelque chose qu'il comprend. Et il y a deux choses très très puissantes. D'abord, un panier de fruits d'été, de fruits mûrs, deux, trois jours, et ça va pourrir. C'est prêt. Et ça va arriver vite. Et puis, c'est la fin. Et en ce jour-là, les champs du palais seront des gémisses. Oracle du Seigneur, l'Éternel, en jettera partout en silence une multitude de cadavres. Alors, sachant que c'est proche, malgré le discours d'Amatia et le croix, Amos continue son dénonciation. Il dit, écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre et qui supprimez les malheureux du pays, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions nos denrées, quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. C'est-à-dire que, bien sûr, ils assistaient aux fêtes religieuses, mais tout au long, ils ne pensaient qu'à comment ils vont gagner de l'argent de façon malhonnête. Dieu n'a rien contre les affaires et le business. Il a tout contre une business malhonnête, la tricherie. Et surtout, pendant le temps que les gens devaient louer le Seigneur, ils ne pensaient que tricher et gagner l'argent sur le dos des pauvres. L'Éternel a juré par l'orgueil de Jacob, « Je n'oublierai jamais aucune de leurs actions. Le pays, à cause de cela, ne serait-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montrera tout entier comme la lumière. Il se soulèvera et s'effacera comme la fleuve d'Égypte. Il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi. » Et que j'obscurerai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et son avenir ne sera plus qu'un jour d'amertume. Donc on parle d'éclipse de soleil peut-être, mais c'est surtout cette idée d'obscurité parce qu'ils sont allés trop loin, devenus trop cupides et l'Éternel tourne contre eux, cette bénédiction devient une malédiction. Ça c'est pourquoi d'ailleurs, il ne faut jamais envier les riches méchants, les gens qui sont tout à fait au contraire du Seigneur, qui sont très loin de la foi et qui sont très riches. Ne vous dites jamais, bah oui, il y a ceci, il est riche maintenant, il fait ce qu'il veut et Dieu ne le touche jamais. Pourquoi? Parce que la justice viendra pour ces gens. La justice revient toujours sur tout système corrompu. Effectivement, nous voyons dans une histoire proche comment, étrangement, tout un système très corrompu qui a fait beaucoup de dégâts a été très rapidement descendu de façon un peu étonnante. Dieu, il est toujours pour le pauvre, l'orphelin, la veuve. Il défend ces gens et la justice viendra, soit dans cette vie, mais toujours dans la vie à venir. Et toutes leurs richesses qu'ils ont gardées pour eux-mêmes et toute cette fierté et orgueil où ils se sont promenés pendant toute leur vie, va témoigner contre eux. Parce que pendant cette vie, ils étaient dans l'abondance et ils n'ont pas reconnu l'Éternel et fait ce qui est juste. Alors, ne soyez pas envieux envers eux. Il faut peut-être plus avoir pitié d'eux. Parce que avec tout ce qu'ils ont reçu dans leur vie, ça va être effrayant le jour où ils vont rencontrer leur Créateur en jugement. Et voici les jours viennent, oracle du Seigneur l'Éternel, j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du nord à l'est, et tu tourneront à la recherche de la parole de l'Éternel, et ils ne la retrouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, eux qui jurent par la sacrilège de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu Dan, vive le rite de Beersheba !» Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Alors cette famine maintenant, c'est une famine d'entendre la parole. Ce n'est pas que l'Éternel, il arrête de parler, ou que la parole ne peut plus être retrouvée, mais parce qu'ils ne veulent plus entendre, ils ne l'entendent plus. C'est cette justice, on sème une chose et on le récolte. Et si nous regardons donc où est venu justement Israël, après ça, nous voyons que c'est une triste réalité qu'il y avait une longue période de silence entre Malachi et puis la venue de Jésus, où il n'y avait pas beaucoup de révélations, il n'y a pas de livre prophétique pendant cette période. Et puis vient le Seigneur, enfin, il vient, parce que, comme il est dit en hébreu, autrefois Dieu a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui il parle par son Fils, et puis il y avait ce refus d'écouter. Et tristement, si nous parlons même aux gens, les orthodoxes dans le judaïsme, ils connaissent peut-être bien Moïse, les premières 5 livres, mais après, ils n'entendent pas beaucoup des prophètes et ils ne connaissent pas grand-chose sur les autres choses, pas autant qu'ils connaissent de la loi. Et c'est de ça, Amos, il parle de ça, c'est comme une famine. C'est une famine parce que la parole est là, mais ils ne veulent pas écouter. C'est pour ça que, avec nos amis Juifs pour Jésus, on est conseillé, lorsque nous parlons à nos amis juifs, de parler des prophètes, ou de parler des autres choses, des livres historiques. Ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas autant. Et j'ai fait cette remarque aussi. Alors, ça ne reste pas juste là. Parce que dans le christianisme, il y avait exactement la même chose. Par exemple, dans le Moyen-Âge, où il y avait la parole retirée du peuple, pour que le peuple ne pouvait pas entendre. Et que même les prêtres étaient illettrés. Et si le prêtre ne pouvait pas enseigner la parole, qu'est-ce qu'entend le peuple? Et c'est exactement ce qui a provoqué tous ces problèmes pendant ces périodes-là. Ou bien, plus tard, que même aujourd'hui, quand l'Église arrête d'écouter la parole pour écouter à d'autres voix, des nouveautés, des sciences humaines, ou des choses, les distractions qui viennent du monde, tout sauf la parole de Dieu, il ne faut pas être étonné qu'après, que l'Église se trouve dans une famille, et qu'un pays ou qu'un continent qui était autrefois le continent chrétien, qu'il y ait une famine sur ce continent de la parole de Dieu. Alors ce n'est pas la peine d'accuser les autres, ce n'est pas la peine d'accuser ou de dire « Ah oui, bon, Israël, ils ont fait ceci. » Mais on doit plutôt assurer que nous écoutons, que nous entendons régulièrement la parole de Dieu. Est-ce que je l'entends? Est-ce que mes oreilles sont ouvertes? Et peut-être c'est une bonne prière pour nous de prier que, au lieu d'une famine, que l'abondance répand, que les gens reviennent, qu'ils entendent, qu'ils ouvrent leurs yeux, que nous ouvrons nos oreilles pour entendre. Puis, chapitre 9, « Je vis l'Éternel qui se tenait sur l'autel. Il dit, frappe le chapiteau, que les seuils s'ébranlent, brise-les, leur tête à tous. Je ferai périr progéniture par l'épée. Parmi eux, le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir. Aucun rescapé n'en réchappera. S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. Ils montent aux cieux. Je les en ferai descendre. Ils se cachent au sommet de Carmel. Je les y chercherai, je les saisirai, et s'ils dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont dans la captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. J'aurai l'œil sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Puis lorsque cette terrible tribulation, jugement sur la terre arrive, on ne peut pas échapper. Ils ont adopté cette même attitude que nous avons dans notre jour aujourd'hui, c'est qu'on pense que le malheur ne peut pas nous arriver. Et Dieu dit, ça c'est la folie. Où est-ce que vous pouvez vous cacher pour que son jugement ne tombe pas sur les gens? C'est une sobre révélation de savoir que la grande tribulation, lorsque Dieu déverse son jugement sur cette terre, va être grand. Et ça va être une tribulation comme ce monde n'a jamais vu auparavant. Et enfin, Amos aussi, comme les autres prophètes, il reçoit une prophétie de restauration, de rétablissement du pays. Verset 11. Et en ce jour-là, donc après la grande tribulation, en ce jour-là, après que tout ça est terminé, je relèverai la cabane chancelante de David, certainement en parlant des rois d'Israël et comment vers la fin c'est devenu très faible. J'en réparerai les brèches. Il est intéressant pour vous qui aimez donc les petits détails sur fin des temps. Certains pensent, parce qu'on parle des cabanes de David, ils pensent que peut-être c'est, là on parle soit du temple ou soit du tabernacle, que peut-être ça va être reconstruit. On n'a pas beaucoup d'autres prophéties qui parlent du tabernacle, mais on a des passages qui parlent du temple qui va être reconstruit. Bon. J'en relèverai les ruines. Je les rabâtirai comme elles étaient autrefois. Comment est-ce que c'était autrefois? Israël était la tête des nations. Et ne vous doutez pas que quand Jésus revient pour régner, il sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et donc, tout sera restauré. Afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été évoqué. Passage cité en Actes chapitre 15 par Jacques, lorsqu'il parle de comment les païens doivent être aussi sauvés. Mais ça parle de la restauration du monde, que toutes les nations viendront à Jérusalem pour louer le Seigneur pendant la règne de 1000 ans. Oracle de l'Éternel qui accomplit tout cela. Voici les jours viennent. Oracle de l'Éternel où le laboreur suivra après le moissonneur. Et c'est lui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la sémence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes et où toutes les collines s'épancheront. Alors ça parle d'une abondance inhabituelle. Normalement, on plante des mois avant qu'on ne moissonne, non? Mais là, on parle d'une moisson presque immédiate. Et normalement, on ne plante pas des vignes qui portent beaucoup de raisins sur des collines. Bordeaux, par exemple, ce n'est pas enfin, ça. Alors, il parle d'une abondance, une restauration étonnante. Il faut dire que le pays d'Israël, comme il est écrit dans la Bible, c'est un pays du lait et du miel. Hein? C'est donc un pays riche et abondant. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pensons à ça? C'est un pays qui manque cruellement d'eau, mais qui est arrivé à faire des grandes choses. Une des endroits très fertiles, c'est près du Galilée. Et là, il faut dire que ça n'était pas comme ça avant. Quand il y avait donc juste des kébuts et des gens qui venaient, ça a été complètement dévasté. Et là, vous pouvez voir ce que c'était avant. Et vous pouvez comparer de ce que c'est aujourd'hui. Vous allez voir que le pays a gravement changé. Et pourquoi? Parce que la terre a été abandonnée. Parce que, par exemple, lors des dernières déportations romaines, les Romains ont semé le sel dans la terre pour que rien ne pousse. Parce que les Turcs et tout ont fait couper tous les arbres. Il y a beaucoup de rochers, cailloux dans la terre aussi, à cause de son histoire. Et ce que nous lisons là, il faut un miracle de Dieu. Et c'est Dieu qui va le faire. Voyez les paysages désertiques. Là, c'est près de la mer Morte. Et là, c'est tout le désert. Mais même dans ces endroits-là, ils réussissent à faire des plantations d'oliviers, des choses pour porter un peu de fruits. Mais quelle était la description originale de ce pays en Genèse, avant que Dieu a frappé ce pays-là par le sulfure et le poudre pour juger Sodome et Gomorrhe? C'était décrit comme un jardin de l'Éternel. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Un rétablissement total, comme on n'a jamais vu ici, comme on ne peut pas voir, justement, avant que Dieu ne revienne. C'est pour ça que nous lisons, bien sûr, en Romains 8, que la nature entière attend avec un ardent désir de voir la révélation des fils de Dieu, que justement ils soient libérés. David Guzik a aussi fait une très bonne observation là-dessus. C'est que parfois il peut avoir une moisson spirituelle inhabituelle, ou on récolte de façon tout à fait inattendue. Et ça, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Il faut prier pour ça. Continuer à prier pour ça. Pour que Dieu change la famine en récolte spectaculaire, spirituelle comme on n'a jamais vu. Et puis il termine, je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël. Ils rabâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Alors, finalement, on termine avec un plan de paix pour le Proche-Orient. Comment est-ce qu'il va le faire? Il faut qu'il envoie le plus grand dignitaire politique qu'il n'a jamais eu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il faut que Jésus revienne. Et il va régler tout le problème de la terre, des populations. Et enfin, le prince de paix va régner en paix. Prions.